On va commencer Bezrat Hashem, notre troisième cours sur le Perek Dalet, au chapitre 4. Chapitre très important, qui a parlé sur le thème des Levushim, des trois vêtements, des trois moyens d'expression qu'a la Neshama pour communiquer avec Akadosh Baruch Hu, et de manière générale, trois moyens d'expression que l'homme a. La pensée, la parole et l'action. Ce qu'on a expliqué dans le premier cours, c'est l'importance qu'il y a aux moyens d'expression. Pourquoi ? On avait expliqué longuement que très souvent, on a des gens qui ont des sentiments à l'intérieur et qui pensent certaines choses, mais qui n'arrivent pas à le dire, ou qui n'arrivent même pas à le penser, ou encore moins qui n'arrivent pas à le faire. Et donc, notre rôle par rapport à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on avait expliqué dans le premier cours, c'est pas seulement d'avoir des sentiments vers Kadosh Baruch Hu, c'est pas seulement de vouloir faire les choses bien, mais c'est de faire les choses bien. Marshava, dibour, maaseh. Pensée, parole, action. Ça, c'était un résumé du premier cours. Deuxième cours, celui qu'on a fait la semaine dernière. C'est un cours qui n'était pas facile. Dans lequel on a expliqué qu'en vérité, on a de la chance qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un moyen de communiquer avec lui. Pourquoi? Parce que le thème la semaine dernière, c'était, quelqu'un va dire, qui a décidé que pour communiquer avec Dieu, il faut passer par la Torah et les mitzvot? Si moi j'ai envie de communiquer avec Dieu à ma façon, je vais m'empêcher? J'ai envie moi de communiquer avec Dieu différemment. Pourquoi tu me dis, pour communiquer avec Dieu, voilà comment il faut communiquer? Qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a expliqué qu'en vérité, quand on communique avec Akadosh Baruch Hu, on communique avec l'infini. Et donc on ne peut pas communiquer avec l'infini, parce que par définition, nous ne sommes pas les mêmes. Lui, il est infini, nous sommes finis. Donc nous sommes incompatibles. C'est comme tu prends deux personnes incompatibles, tu les mets dans la même pièce, ils ne parlent pas la même langue. Calva Homer a plus forte raison. Quand on parle de la relation qu'il y a entre un juif et Akadosh Baruch Hu, un homme, un humain, une créature, quelque chose qui est par définition fini, avec Akadosh Baruch Hu, qui lui est infini, normalement c'est impossible de communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, dans son extrême bonté, il nous a créé un système dans lequel il a pensé à nous, et dans lequel il a dit, voilà, je ne peux pas t'expliquer comment ça marche, mais une chose je peux te dire, c'est que si tu appuies sur ce bouton, sur ce bouton, sur ce bouton, ça marche. Je ne peux pas t'expliquer comment ça marche, parce que, comme nous-mêmes nous sommes des créatures d'Akadosh Baruch Hu, donc on ne peut pas comprendre l'infini. Mais Dieu te dit, une chose je peux te dire, c'est que si tu appuies sur ce bouton, si tu as telle pensée, si tu as telle parole, telle filda, et tu fais telle mitzvah, tu communiques avec moi. Donc c'est une chance qu'on a qu'Akadosh Baruch Hu est descendu à notre niveau et nous a donné une manière de communiquer avec lui. Donc là, ça c'était le résumé du deuxième cours qu'on a fait dans le chapitre 3. Le chapitre 4, pardon. Là maintenant, vient le troisième cours qu'on va avoir sur le chapitre 4, un cours très important à mon avis, qui est... Il va expliquer l'importance de la Avoda, l'importance du service de Dieu dans Olam Hazeh, dans ce monde-ci. Et comment maintenant qu'on a expliqué tout ça, que l'importance c'est l'action, et que l'importance qui compte c'est qu'il faut faire le travail sur le terrain, et que c'est pas, même si moi je le ressens pas, c'est pas moi qui décide est-ce que ça marche ou pas, c'est Dieu qui m'a dit ça marche, donc je dois lui faire confiance, qu'on a expliqué la semaine dernière. Maintenant on va expliquer comment au travers de tout ça on va comprendre comment ça se fait que dans la Torah, on accorde une grande importance au Olam Hazeh, et comme vous verrez dans la suite de ce Perek, peut-être même plus qu'au Olam Haba. Sur certains aspects.
Alors avec la tuile en
j'ai pas fini encore, deux secondes. On va expliquer aujourd'hui comment dans certains aspects, Olam Hazeh, ce monde-ci, est plus important même que Olam Haba, que le monde futur. Pourquoi? Parce que, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, pardon, c'est que dans ce monde-ci, on peut travailler, on peut communiquer avec Dieu, penser, parole, action, alors que d'une certaine manière, dans le Olam Haba, on peut moins communiquer avec Dieu qu'ici-bas. Mais ça, on va devoir développer, parce que c'est compliqué ce que je suis en train de dire ici. Vous avez entendu ce que je viens de dire?
Oui, qu'on communique moins dans l'Olam Haba que
avec
dans l'Olam
Haba. Que ici. Alors, on va développer. Donc c'est pour ça qu'on voit que dans le Chassidut, on aime beaucoup le Olam Hazeh.
Parce que peut-être il y a des tefilotes qu'on ne fait pas là-haut, il y a peut-être des choses,
on va voir.
Des actions qu'on ne fait pas là-haut, etc.
On va voir.
C'est ce qui explique que peut-être, enfin, pourquoi c'est mieux.
Je vais vous poser une question. D'après vous, quand ma chère va venir, est-ce que la finalité, c'est qu'on vivra dans des corps?
Dans le
corps. Dans un corps. Neshamot Begoufim.
Non, bien sûr.
Non.
Dans une première étape, c'est sûr que oui, parce que c'est la résurrection des morts. S'ils revivent, c'est parce qu'ils vivent. Très bien. Mais à terme, est-ce qu'on vivra toujours dans des corps?
Non.
Est-ce qu'à un moment, on quittera les corps?
Olam Haba, il n'y aura plus de corps.
On ne sait pas.
Il y a une machloket, une grande machloket. On appelle ça la machloket entre le Rambam et le Ramban. Très grande machloket, qui va dépendre de ce cours. D'accord? C'est pas que leur machloket dépend de ce cours. C'est que par rapport au concept qu'on va expliquer dans ce cours-ci, on va comprendre qu'est-ce que le Rambam va penser, qu'est-ce que le Ramban va penser. Rambam, c'est Maïmonide, Ramban, c'est Narmanide. Et par rapport à ce qu'on va expliquer, on va comprendre qu'il y en a un qui va dire, d'après moi, la finalité, c'est qu'on quitte le corps. L'autre qui va dire non. La finalité, c'est de rester dans le corps et on peut développer beaucoup plus dans le corps qu'en dehors du corps. Ça, on va devoir développer. Alors, Velachen. Je suis à la page 88, Velachen Amrou. Pour ceux qui ont le livre...
Pour faire votre corps, alors.
Velachen Amrou, exactement. Voilà, t'as bien compris le message.
Mais celui qui a le corps déchiqueté...
Tu nous dis ça à 40 ans, pas
qu'est-ce qu'il va retrouver avec...
Ça veut dire quoi?
Il y a une guerre, là, le bras, il est là-bas.
On va le guérir.
Le corps,
on va
le guérir. Là-bas. On ne sait même pas où il est son bras.
Mais Dieu va le guérir.
Quand on va l'enterrer, on ne sait même pas où il est son bras.
Dieu, ça, vous inquiétez pas, Dieu va le guérir. Échange standard, pas de problème, on s'occupe. Mais là, Ren Amrou...
Les gens victimes d'attentats, c'est ça, malheureusement.
Bien sûr. Mais ils vont, Akadosh Baruch Hu va les guérir, c'est quoi le problème?
Bah, il en faudra.
Mais ils vivront dans un corps. Ils vont vivre dans un corps. Maintenant, ça, tout le monde est d'accord que dans la première phase, quand Mashiach va venir maintenant, Bimera vient avec nous, d'accord? C'est évident d'après tout le monde que quand Mashiach arrive, on revient dans les corps. La grande question, c'est est-ce qu'on restera toujours dans les corps ou pas?
Mais dans quel état je reviens dans le corps? Est-ce que je vais voir mes proches, je vais voir mes parents?
Vous aurez la même femme.
Alors, voilà.
Aïe, 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 aïe.
C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que si je reviens dans le corps et je vois des étrangers que je connais pas, moi ça m'apporte
rien. Vous inquiétez
rien.
Pas. Je serai là à côté de vous. Et vous pourrez me poser vos questions. Et moi je vous amènerai les poser directement à ma chère. Mais la chaîne Amrou, c'est pour ça que les Chachamim ont dit, dans la Mishnah de Pirkei Avot, les Chachamim ont dit, dans Pirkei Avot, chapitre 4 de Pirkei Avot, c'est écrit que un instant de teshuva et de bonnes actions dans ce monde-ci, yafa, il est plus beau mikol chaye à Olam Haba que toute la vie de Olam Haba du monde futur. Ça veut dire quoi? Comment on comprend en général ce texte avant le commentaire de la Chassidut? Comment expliquer les commentaires comme Rashi, comme Barthénora, etc., le Pshat? C'est qu'il explique qu'en vérité, quand Mashiach va venir, ce sera déjà trop tard. Celui qui voudra réparer, il va dire, bon, maintenant que Mashiach arrive, il dit, mais attends, deux secondes, on revient. On lui dit, c'est trop tard. Et c'est pour ça que quand Mashiach va venir, on va se dire, mais mince, mais c'est dommage. En un instant que j'aurais pu travailler avant, en un instant le Teshuvah, j'aurais pu maintenant gagner, j'aurais pu faire des choses extraordinaires. Là, ce qu'on va expliquer dans la Chassidut, on va expliquer.
Ils n'ont pas de solution, cela.
C'est trop tard. Quand Mashiach arrive, tu as ce que tu as. On arrête le jeu. Mmh. On arrête le jeu et maintenant, tu sais, c'est comme.
Le Mashiach arrive, ainsi, il efface pas tout, alors.
Si on doit être précis,
si le Mashiach arrive, il efface pas tout.
Voilà, un, deux, trois soleils, exactement.
Hein.
Alors, je vais expliquer. Vous savez, une fois, j'ai raconté cet exemple plusieurs fois dans le cours de Tania. C'est un exemple que nous avait raconté quand j'étais à la Yeshiva, le Rav Segal, qui est maintenant un des Rosh Yeshiva à la Yeshiva de Brunois. Quand il nous avait raconté ça, c'était encore un jeune homme qui nous enseignait à la Yeshiva de Brunois. Il nous a raconté un exemple que j'ai trouvé très joli. Il a dit, imaginez, c'est comme si qu'on fait rentrer quelqu'un dans une pièce, dans laquelle il y a plein de boutons, des boutons partout. Des boutons à droite, des boutons à gauche, des boutons à côté. Et on lui dit, attention, on lui dit, les boutons à droite, il faut appuyer un maximum, les boutons à gauche, ils ne touchent pas. Maintenant, lui, il voit pas qu'est-ce qu'il fait quand il appuie sur des boutons. C'est une salle de contrôle. Donc, au début, il écoute, il appuie sur le bouton à droite, il appuie pas sur le bouton à gauche, il appuie à droite, il appuie pas à gauche, etc. Mais après, à un moment, les boutons à gauche, ils ont l'air intéressants. Il dit, tiens, je vais voir ce qui se passe. Il touche, et il voit qu'il se passe rien. Il dit, bon, bah, s'il se passe rien. Alors, dans ce cas-là, il se passe rien, c'est pas grave. Donc, il appuie un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Et comme ça, il voit rien. Après, des années plus tard,
il se passe rien.
On ouvre. C'est pas qu'il se passe, il voit rien. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques années plus tard, on lui ouvre le rideau. On lui dit, regarde, voilà ce que tu as fait. Là, tu as construit une rue, là, tu as détruit une rue. Là, tu as construit une ville, là, tu as détruit une ville. Il dit, mais attendez, je veux revenir au cockpit, je vais appuyer sur le bouton, je sais quel bouton il faut appuyer maintenant. Non, c'est trop tard. Maintenant, le cockpit est éteint, c'est fini, il ne peut plus toucher au cockpit. C'est la même chose. Quand Mashiach va venir, un instant de teshuva dans ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Quand je dis le monde futur, c'est quoi le monde futur? Il y a deux choses. Le monde futur, c'est le Gan Eden, et c'est aussi Mashiach. Pourquoi? Parce que Olam Haba, ça veut dire le monde futur. Ça peut être mon monde futur à moi, ça veut dire le Olam Haba, après 120 ans. Et ça peut être aussi le monde futur de l'humanité, c'est quand Mashiach arrive. Et qu'est-ce que te dit ici la Mishnah de Pirkei Avot? Elle te dit qu'un instant, de teshuva et de bonnes actions dans ce monde-ci vaut plus que tout le reste. Ça, c'est le pshat.
Ouais, mais qui n'en fait pas une bonne action au moins dans ce monde?
Très bien.
Donc, on a droit à ce moment-là, à tous
quoi?
Les égards.
Il a construit une rue, il a détruit 10 rues.
Non, mais c'est pas ce qu'il dit là. Il dit rien qu'une seule action dans ce monde-là.
J'ai dit, c'est plus beau. Alors, ça, c'est le pshat. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le pshat. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est qu'un instant dans ce monde-ci vaut plus que tout dans le olam haba. Sauf qu'il y a un problème avec ce pshat-là. C'est que le langage, a priori, n'est pas précis. Dans ce cas-là, on aurait dû dire que quand Machiav va venir, on va comprendre l'importance d'un instant de Teshuva dans ce monde-ci. Mais c'est pas ça ce qu'a dit dans Pirkei Avot. Pirkei Avot a dit qu'un instant de ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. C'est faux. D'après ce que l'on a expliqué, c'est faux. J'ai simplement dit que quand Machiav va venir, on va apprécier un instant de ce monde-ci. Mais là, la Mishnah dans Pirkei Avot a l'air d'aller plus loin que ça. Elle dit pas seulement qu'on va apprécier chaque instant de ce monde-ci et qu'on va regretter le passé. Non. Elle te dit un instant de ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Non, c'est faux, et ça vaut pas plus. Et c'est là qu'on va voir le commentaire de la Chassidout, ce qui est basé sur le Zohar, qui va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ça vaut plus.
Il y a fait pour qui?
On dit pas, c'est pas expliqué. Mais a priori, il y a fait, c'est-à-dire c'est mieux.
C'est pour Akadosh Baruch
Hu. Alors, est-ce que pour Akadosh Baruch Hu c'est mieux, ce monde-ci que le Olam Haba?
Évidemment.
Le pshat. Quand on prend le pshat tel que Rashi l'explique, Rashi dit, parce que quand Mashiach va venir, on pourra plus faire Teshuvah. Ça fait peur, hein.
Maintenant, je viendra tout sera figé.
Tout sera figé.
Il n'y aura plus de naissance.
Non, j'ai pas dit qu'il n'y aura plus de naissance. J'ai dit l'état spirituel, c'est-à-dire tu pourras plus faire tes chouvins. C'est trop tard.
C'est normal qu'il dise ça, parce que s'il dit pas cela, ça veut dire les gens ils vont faire des avers
et
des
avers. Et vous savez,
quand je serai là-bas, je ferai tes chouvins.
C'est écrit qu'il y a une prophétie qui dit que quand ma chère va venir, Even Mikir Tizrak, les pierres du mur vont commencer à parler. Après, ils vont parler. Qu'est-ce qu'ils vont parler? Depuis quand une pierre elle parle? Alors une fois le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, avait expliqué, il avait dit qu'en vérité, on sait très bien aujourd'hui, surtout dans la science, on sait très bien que chaque parole qu'on dit, ça a une répercussion dans le monde entier.
Les ondes.
Donc c'est sûr que la pierre devant laquelle j'ai parlé, cette pierre-là, c'est une onde qui laisse une trace ad vitam aeternam, c'est sûr ça, on le sait aujourd'hui scientifiquement. Et quand Moshe va venir, la pierre va commencer à parler. Elle va dire que t'étais à côté de moi. D'accord? Moi j'étais une pierre, je pouvais rien faire, mais toi tu pouvais parler. Au lieu de dire des vrais Torah, qu'est-ce que t'as raconté? T'as raconté des bêtises. Alors moi, je vais parler même. Je vais trouver que ça à faire à côté de moi. Et tac, elle va te répéter les paroles que tu as dites.
Alors, est-ce que ça...
Pourquoi? Parce que les paroles sont gravées en elle.
Oui, d'accord.
Even, la pierre, Mikir, du mur, Tizak, qu'elle va crier. Ou bien, le rabbi précédent avait expliqué aussi, le rabbi Yosef Israël qui avait expliqué, il dit la même chose. Il dit, quand on piétine sur le sol, si je piétine, ça veut dire que moi, je suis le plus important et le sol, je piétine dessus. Je piétine, je marche dessus. Mais quand ma chère va venir et que le sol va se mettre à parler, il va dire, de quel droit t'as piétiné sur moi? Si t'as piétiné sur moi, ça veut dire que tu penses que t'es mieux que moi. Parce que tu peux parler. Mais pour parler, pour dire des bêtises, t'aurais mieux fait te taire, comme moi.
Machiav, c'est pas le jugement dernier.
Machiav, c'est le Yom Hadin. Bien sûr.
Avant le Yom Hadin.
Machiav, quand on dit Machiav, c'est le moment dans lequel c'est le monde futur. De la même manière que quand il y a le monde futur pour chacun de nous, le Gan Eden, c'est le moment dans lequel on est jugé. De la même manière, Machiav, c'est le moment dans lequel tout le monde est jugé. Donc tout est figé.
Il y a une transition.
Quoi?
Il y a une transition entre ce monde et l'autre monde.
Alors, la transition, c'est la phase messianique dans laquelle on construit le Beit HaMikdash, dans laquelle on continue à travailler, on continue à vivre normalement. Mais il y a le Beit HaMikdash, il y a Machiav, il n'y a plus de guerre dans le monde. Et progressivement, on se prépare au top de Machiav. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la première étape, il n'y aura pas la résurrection des morts. Il y en a qui disent que la résurrection des morts, il y en a qui disent seulement 1000 ans après. Il y en a qui disent c'est 40 ans et plusieurs années.
Ah non, on verra dans 1000 ans.
Vous inquiétez pas, c'est quoi le problème? Si vous allez vivre 1000 ans.
Ouais, c'est ça, ouais, vous pouvez rêver tout ça.
On sera éternel et en bonne santé.
Pas de problème, c'est Benita. Vous vous brûlerez en enfer, nous serons au paradis.
Ah, je vous donne le tout, moi. Prenez tout, hein.
Chas de Shalom. C'est béni, il faut y croire. Quand on y croit, ça marche. Bon, on continue. Ça fait pas le thème.
Allez, pour vous faire plaisir, on continue. Allez.
Donc, dans les mots. Velachen Amrou, je reprends. Oui.
Pourquoi on attend tellement le Mashiach alors? Si c'est mieux ce monde-là.
Qui a dit que c'est mieux?
Il a fait.
Ah, mais on n'a pas expliqué pourquoi c'est mieux. Ah, mais j'ai pas encore expliqué.
Non, mais en tout cas, c'est mieux. C'est
non, 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 attendez. D'après ce que Rashi a dit. Comme on a expliqué, c'est pourquoi on dit que ce monde-ci est mieux que le Olam Haba, parce que quand on arrive au Olam Haba, on regrette ce qu'on aurait pu faire, et on comprend qu'un instant, en un instant de travail comme
c'est
ici-bas, d'accord, on réalise combien on aurait pu faire.
Un instant de teshuvah, c'est
d'accord. Et plein d'exemples. C'est comme si il y a eu un exemple qui a ramené le Magui de Dubno. Il dit, c'est comme une fois on a envoyé quelqu'un en mission. On lui a dit, il y a une île sur laquelle il y a des diamants partout. Et toi, tu vas aller là-bas, et ta mission, c'est de récolter un maximum de diamants. Et dans quelques années, je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a un bateau qui viendra te chercher, et dès qu'il viendra te chercher, tu devras partir. D'accord. Donc lui, il y va. Il y va au début, dès qu'il arrive, il voit des diamants partout. Il ramasse les diamants. Et après, raconte le Maguide, c'est une parabole. Après, au bout d'un certain temps, il veut acheter du pain, il veut acheter à manger. Alors il dit, j'ai des diamants, je vais m'éclater. Il vient avec ses diamants, il dit, mais ça vaut rien ici, des diamants. Il dit, qu'est-ce qu'il vaut ici? Ah, ici, du charbon. Le charbon ici, ça vaut de l'or. Alors, il commence à chercher du charbon parce qu'il veut manger. Et il cherche du charbon, il commence à faire des stocks de charbon. Il fait des stocks. Et il arrive, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années passent, on vient le chercher, et il remplit le bateau avec du charbon, il dit, mais qu'est-ce que vous amène du charbon? On en a plein du charbon, ça vaut rien chez nous, le charbon. Et le Maguide, nous, il disait, c'est la même chose. Il dit, quand on arrive après 120 ans, à Kadosh Baruch Hu, il dit, alors, qu'est-ce qu'il m'a amené? Moi, je t'ai envoyé pour chercher des diamants. Qu'est-ce qu'il m'a ramené? Il dit, ben, écoute, voilà, je t'ai ramené des appartements, je t'ai ramené des immeubles, je t'ai ramené, j'ai investi. Il dit, Kadosh Baruch Hu, mais c'est du charbon, ça. Du charbon, on en a plein, on n'a pas besoin de ce charbon. Nous, on veut les diamants, t'as fait les mitzvot, où sont les mitzvot? Et c'est comme ça que Rashi comprend. C'est un machel du Maguide de Doudmo sur ce Rashi. C'est comme ça que Rashi comprend que pourquoi on dit qu'un instant dans ce monde-ci vaut plus que tout le Olam Haba? Parce que quand on arrive au Olam Haba, on réalise comment un diamant, avec un diamant que tu aurais pris là-bas, tu dis, mais mince, quand tu reviens là-bas, tu dis, mais avec un diamant, si j'avais juste un diamant, j'aurais été milliardaire ici. Mais c'est trop tard. T'es déjà parti. Y a plus de diamants maintenant. Ça, c'est comme ça que Rashi explique. Mais comme j'ai expliqué, le problème qu'on a avec ce commentaire, qui est un très bon commentaire, que tout le monde explique, c'est que le terme Yafa, a priori, n'est pas précis. Quand on dit qu'un instant dans ce monde-ci vaut plus que tout le Olam Haba, c'est faux. Quand on va arriver au Olam Haba, on apprendra à apprécier le Olam Hazé. Mais dire que ça vaut plus, non. Là, quand on lit le Mishnah, le Pirkei Avot, on a l'impression que Mamash, le Olam Hazé, ce monde-ci, est plus important que le Olam Haba. Comment c'est possible? Comment on peut dire ça?
C'est marqué même un instant de Teshuvah, c'est pas un instant de...
Teshuvah et bonnes actions.
Massim Tovim, d'accord.
D'accord?
Bon, donc c'est ça.
Alors, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer que un instant de Teshuvah et de bonnes actions dans ce monde-ci est mieux que toute la vie du Olam Haba? Pas que quand on va arriver au Olam Haba, on va apprécier le moment. Non, c'est mieux. D'accord? Vous allez comprendre dans la suite ce que je veux dire. Il dit, explique ici. Il dit, ki, ka, olam haba, hu, shene, ni, mizi, vashrina. Qu'est-ce que c'est le olam haba? Nous dit la Gemara Brachot. Le olam haba, c'est quoi? Hein? C'est un moment dans lequel on va profiter du rayonnement de la shrina. Il y a des gens qui vont bronzer aujourd'hui, ils vont à la plage pour bronzer. Ben, imaginez que c'est quoi le olam haba? Le olam haba, c'est les chaises longues. De quoi on profite? On profite du rayonnement de la shrina. Maintenant, c'est quoi le rayonnement de la shrina? En clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je veux m'asseoir, il y aura du soleil, c'est pas du soleil, c'est quoi? Chez Hu, là, il explique c'est quoi le pshat de la Gemara, ça veut dire quoi qu'on profite du rayonnement de la shrina? Chez Hu, ta'anug ha'asaga. Quand il y aura Mashiach, et quand on sera surtout au Olam Haba, ta'anug ha'asaga, c'est le plaisir de comprendre quelque chose. Vous savez, on dit que quand quelqu'un il comprend quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vois. Il y a une lumière. Il dit, je vois. Quand on dit que quand on va arriver après 120 ans en haut, on dit que les tzadikim, ils sont yoshvim, ils sont assis. La Gemara là-bas, elle pose la question, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Elle dit, les tzadikim, yoshvim, veneni, mizi, vashrina. Au Gan Eden, ils sont assis et ils profitent du rayonnement de la shrina. Ça veut dire profiter du rayonnement de la shrina? Ça veut dire qu'ils ont le plaisir de comprendre. Ils ont le plaisir de comprendre ce qu'ils ont toujours fait dans leur vie. Et ils ont une compréhension tellement puissante qu'en vérité, le corps humain n'est pas capable d'arriver à cette compréhension. Pourquoi? Parce que le corps humain nous bride. Quand on est ici-bas, on réfléchit pas avec notre neshama, on réfléchit avec notre corps. Et donc, puisque notre corps est matériel à 100%, donc notre compréhension est bridée. Même les tzadikim qui essayent de se dépasser, forcément, ils sont bridés par leur corps. Quand on arrive après 120 ans en haut, qu'est-ce qui se passe? On est débridé. Ça veut dire que là, t'as plus le corps, donc du coup, ta neshama, elle peut aller all the way, elle peut complètement comprendre à 100%, et surtout, pas seulement comprendre, avoir le plaisir de comprendre. Et le plaisir quand tu sais que tu as compris quelque chose. Donc, vehi afshar, le shum nivra, afilu ma'elyonim, le asig, kim, et zohara me'orachem. Mais tu dis, mais il y a un problème avec ça. Ok, donc on est en haut, on est sur les chaises longues, on comprend. Tu comprends quoi? Même si tu vas me dire que mon corps n'est plus, j'ai plus mon corps qui va me brider, mais concrètement, la meilleure compréhension que pourra avoir le plus grand sadique du Gan Eden, c'est une compréhension qui est limitée. Elle reste limitée. Pourquoi? Parce qu'on parle, quand on communique avec Akadosh Baruch Hu, on parle toujours de l'infini. Et rappelez-vous ce qu'on explique au début du cours. Forcément, si un est fini et l'autre est infini, donc forcément la communication est limitée. Donc il te dit, t'as beau dire que quand on va arriver au Gan Eden, on va kiffer grave. Quoi on va kiffer? Parce qu'on va comprendre. Mais qu'est-ce qu'on comprend? C'est même pas un rayonnement. La Gemara là-bas, elle dit bien que c'est Ziv. Ziv, c'est un rayonnement. J'ai presque envie de dire l'ombre de la Shrina. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce que, en vérité, à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut le comprendre? Kadosh Baruch Hu est beaucoup plus haut que tout ça. Kadosh Baruch Hu, même le plus grand des tzadikim, ce qu'il va comprendre, c'est même pas un rayonnement, c'est même pas un rayon. C'est même pas le rayon du rayon. Ziv, c'est ce qui découle d'un rayon. Aval à Kadosh Baruch Hu. Une seconde, j'y arrive. Aval Akadosh Baruch Hu, Birvodo ou Beatmo, Leit Mashavat Fissa Beklal. Mais Akadosh Baruch Hu en personne, est-ce qu'on peut le comprendre en haut? Bien sûr que non, personne ne peut le comprendre. Kiim seulement, Kaachert Fissa ou Mitlabesh Abetorah Mitzvotea. Là maintenant, il va expliquer un très très grand chidouche de la Chassidut pour expliquer comment on peut expliquer que dans ce monde-ci, un instant de ce monde-ci vaut plus que le Olam Haba. Comment on peut dire des choses comme ça? On a eu le pshat de Rashi, maintenant on va expliquer le pshat du Zohar. Très simple. Il te dit, regarde, qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en haut après 120 ans? On est en train de profiter de la compréhension. On n'agit plus, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On peut plus agir, mais par contre, on ouvre la scène, on te dit voilà ce que tu as fait. Et là, tu comprends tout, tu kiffes, parce que tu comprends. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on comprenait rien. Il y a appuie ici, appuie ici, appuie ici. À un moment, on dit stop, on stoppe les machines. Maintenant, on ouvre, et maintenant, vous allez comprendre ce que vous avez fait. Tu kiffes, bien sûr, tu kiffes. Mais jusqu'où ta compréhension peut aller?
Ça dépend ce qu'on va te montrer aussi, hein.
Je parlais de tzadikim. Disons qu'on va kiffer. Peu importe. Disons qu'on va kiffer. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre déjà? Il va comprendre jusqu'à où sa neshama peut aller. Mais sa neshama est une création d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est forcément, d'une certaine manière, fini. Donc il est limité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la compréhension est forcément limitée. Alors que, quand tu fais une mitzvah, que tu ne comprends pas, tu l'as fait parce que tu dois la faire. Qu'est-ce qu'on a expliqué?
L'infini.
Tu touches à l'infini. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui a créé ce vecteur de communication. C'est Dieu qui a créé ce vecteur. Et Dieu m'a dit, voilà, tu vas faire telle mitzvah, tu vas mettre les téfilines avec une peau de parchemin, tu t'attaches à moi. Que tu le comprennes ou tu le comprennes pas. Donc c'est vrai que quand on fait une mitzvah, on comprend moins. C'est vrai, la compréhension on n'a pas. Mais d'un autre côté, quand on attrape Akadosh Baruch Hu par une mitzvah, on attrape Akadosh Baruch Hu, comme il va expliquer après, ça veut dire quoi, attraper? On attrape Akadosh Baruch Hu comme personne ne peut faire au Gan Eden. Parce qu'au Gan Eden, on peut que comprendre. Et la compréhension, ça reste forcément limité. Là, on est en train de dire que quand on fait une mitzvah, on attrape Akadosh Baruch Hu, comme personne ne peut le faire. Et là, avec ça, on peut comprendre un nouveau pshat, un nouveau sens. Comment on peut comprendre le fait que quand on fait une mitzvah dans ce monde-ci, ça vaut plus que tout le Olam Haba. Parce que le Olam Haba, tu n'attrapes pas Akadosh Baruch Hu. Tu comprends ce que tu peux comprendre. Et le plus grand de tzadikim qui va comprendre, ça reste limité jusqu'à où la neshama peut comprendre. Mais ici-bas, sans comprendre, peu importe si tu comprends ou tu comprends pas, t'as fait une mitzvah, comme on l'a dit la semaine dernière, t'es tofes à Kadosh Baruch Hu, tu attrapes à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu qui a décidé que lorsque tu fais une mitzvah, tu l'attrapes. Oui, donc, deux secondes, je termine le raisonnement. Je ne suis pas en train de dire que ça veut dire qu'en bas on kiffe. Pas du tout. On peut faire une mitzvah sans comprendre. Mais au moins ce qu'on sait, c'est qu'on te dit, quand tu fais une mitzvah ici-bas, ça marche et tu attrapes à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'en haut, lorsque tu comprends, tu comprends. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Tu es que spectateur. Alors que là, tu es acteur. Donc là, c'est une notion qu'on va développer dans la suite, très très importante, pour nous montrer l'importance du Olam Hazeh par rapport au Olam Haba. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure je vous parlais de la grande marloquette qu'il y a entre le Rambam et le Ramban, à savoir quelle va être la finalité de ce monde-ci. Tout le monde est d'accord que dans la première phase de l'époque messianique, tout le monde est d'accord que dans cette première phase, évidemment on va vivre dans le décor. Rambam, Maïmonide, lui il pense qu'à un certain temps on va quitter les corps. Il dit, on peut pas expliquer. Rambam, il dit comme ça. Il dit, on peut pas dire que la finalité de ce monde-ci se trouve dans un corps matériel. On peut pas dire ça. Ça, c'est l'approche de Rambam qui est très logique. Vient Ramban, Nachmanide. Parce que Maïmonide, il te dit, le corps est limité. Le corps bride la personne. D'accord? Le monde entier bride. Donc Maïmonide te dit, non, il a une logique très simple.
Le corps bride.
C'est un peu la question de Ben. Il te dit, éventuellement, il y aura une phase de transition. Mais d'après Rambam, il te dit à un certain moment, hein, il faut qu'on quitte le corps pour quitter ce bridage qu'on a à cause de ça, à cause du corps, à cause du monde. Ça, c'est l'approche de Rambam.
Oui, mais ça s'entend au sens qu'on est actuellement. Quand il y a l'animation, rien d'autre, dévoilement de Dieu, donc le corps, forcément, c'est pas...
Ça change pas qu'une création matérielle bride quand même. Ça, c'est l'approche de Rambam. Rambam n'est pas d'accord. Nachmanide n'est pas d'accord. Qu'est-ce que pense Nachmanide? Nachmanide, il dit que la finalité de ce monde-ci est Neshamot Begufim. Neshama dans le corps. Donc c'était un grand débat qui est entre Rambam et Ramban.
Mais on l'a déjà la Neshama dans le corps.
Oui, mais ça veut dire que quand Mashiach va venir, la finalité sera qu'on va rester dans le corps. Alors, c'est un grand débat, c'est un très très grand débat qui est entre Rambam et Ramban. D'accord, il y a eu beaucoup de livres surtout qui sont venus après, parce que Rambam et Ramban, sur ça, ils n'ont pas communiqué directement. Donc chacun a écrit son commentaire. Et après, il y a eu beaucoup de penseurs juifs qui sont arrêtés dessus. Et a priori, la majorité des penseurs juifs d'aujourd'hui se basent sur l'approche du Maharal de Prague. Grande majorité se base sur les écrits du Maharal de Prague. Et le Maharal de Prague a tranché. Il a dit que d'après le Zohar, si on tranche d'après le Zohar, il faut dire que la finalité de ce monde-ci, c'est une échamote begoufim. Ça veut dire qu'on va vivre begoufim dans des corps. Mais, et là, vous allez comprendre qu'à la fin de ce chapitre, on va comprendre que d'après le Zohar, ça peut être que comme ça.
Et on garde notre neshama ou c'est l'échama d'une autre qu'on
La même femme, je dis la même chose.
Et quand les morts vont
réussir, c'est éternel. Le
même loyer, tout. Hein.
Contrat éternel.
Ah ouais. Quoi? Oui, sera éternel dans un corps. Ça, c'est l'approche de Ramban. Maintenant, comme Rambam dit que toutes ces choses-là, tant que c'est pas arrivé, on pourra pas savoir comment ça va se passer.
Peut-être pas le nôtre,
pas le nôtre.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut changer le
corps? Dans un corps.
Si l'oublie pas, on
peut. Non.
Le mec est vraiment mauvais.
Ceux qui sont niftar, quand ils vont ressusciter, il y a une marloquette, est-ce que tous les corps vont ressusciter, ou seulement un corps par réincarnation? Parce que, d'accord? Mais tous ceux qui sont vivants, ils restent vivants. C'est-à-dire que si maintenant ma chère arrive maintenant, même si on est des réincarnations, nous on reste.
Mais juste un truc. C'est que... Quand tu dis que la compréhension, quand tu dis que la compréhension dans le Olam Haba, elle est limitée.
Moi j'ai pas dit qu'elle est. Attends. Mais juste elle est limitée par définition.
Quand tu dis qu'on va vivre dans des cordes avec la Neshama, etc., ça c'est le Olam Haba?
Non, Olam Haba, alors c'est pour ça que j'expliquais au début du cours que Olam Haba, il y a deux sens. Ouais. Olam Haba, il y a le sens, le monde futur de la personne, donc ça c'est le Gan Eden. Ouais. Il y a aussi Olam Haba, le monde futur de l'humanité, ça c'est Mashiach. Et Olam Haba, en hébreu, ça se traduit les deux de la même manière. Olam, le monde, Haba, futur. Futur pour qui? Ça dépend comment on comprend.
Ah, donc à partir du moment où il y aura Mashiach, plus personne va mourir.
Mais, ah, ça c'est évident ça. Comme on dit, c'est écrit Kol Israël Yeshlaem Chelek Leolam Abba.
Et même chez les Goy?
Quand Mashiach arrive, tout se fige. À l'instant où Mashiach arrive, tout se fige. Tout reste comme ça, tel quel.
Qu'est-ce qui va changer le jour où il arrive?
Quoi?
On vieillit plus.
On rajeunit même.
Ouais, mais alors ça veut dire nous allons devenir tous des éternels alors?
Bien sûr.
Alors donc on est des dieux, on va tout.
Non.
Eh ben, quelle est la différence?
Normalement, excusez-moi. Adam Arishon ne devait pas mourir. Il était éternel.
Il n'est pas un dieu.
Le soleil meurt?
Non.
Pourquoi il meurt pas?
Il va mourir dans 3 presque... milliards d'années.
Normalement, on aurait dû être comme le soleil. Pourquoi tu veux mourir?
Dans 3 milliards d'années.
Est-ce que le soleil meurt? Il meurt pas.
Pas pour le moment. Mais il va
mourir. Pas pour le moment. Ça fait des millénaires qu'il est là. Il bouge pas.
Oui, mais c'est quoi le soleil dans notre galaxie?
Pourquoi l'homme doit mourir? C'était à cause de la faute d'Adam Arishon.
Ouais, enfin,
et donc quand Mashiach va venir, c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon. Donc on s'arrête de mourir.
Bah oui.
C'est logique.
Bah sinon ça sert à rien.
Oui. C'est une punition qui s'arrête.
D'accord. Mais si on s'arrête de mourir encore, donc nous devenons des éternels.
Oui.
Eh bien voilà. Merci.
Mais on ne devient pas des dieux. Razé Shalom.
Bah et Dieu on l'appelle éternel.
Mais c'est comme si le soleil, il est le soleil. Est-ce que c'est un dieu parce que depuis la création du monde il est là? C'est pas un dieu.
Il fut un dieu pour certaines.
C'était une erreur.
Civilisations.
C'est une erreur parce que c'est pas parce que quelque chose est éternel qu'il est dieu. Il a été créé par un dieu qui est éternel.
Et juste même dit quand tu dis que les tzadikim vont voir le rayonnement.
Et en passant, je pense que cette erreur, excusez-moi, je descends.
Oui.
Je pense que cette erreur vient du fait qu'en français, je sais pas pourquoi, ils traduisent Dieu par l'éternel. C'est pas ça en hébreu.
Mais c'est comme ça que c'est traduit sur les livres aussi. Hein.
Mais c'est bien la traduction l'éternel, mais d'un autre côté. On dit Akadosh Baruch Hu. On dit Hachem.
Le
Saint béni soit-il. On dit pas l'éternel. J'ai pas dit qu'il y a des endroits dans lesquels on dit pas qu'Akadosh Baruch Hu est éternel. Mais que la définition principale de Dieu soit l'éternel, ça fait que maintenant il y a des gens qui pensent que ce qui est éternel, c'est un Dieu.
Mais on le dit, l'éternel.
C'est un amalgame.
L'éternel, notre Dieu.
Je sais, mais c'est pas la traduction littérale.
Les grands hachamim, ils ont traduit comme ça.
Ils ont traduit l'éternel parce qu'en général, ils ont traduit l'éternel parce que le terme qu'on traduit l'éternel, c'est yudke vavke. Et dans le yudke vavke, on a les trois formes du verbe être. D'accord? Donc, passé, présent, futur. Donc, comme ça couvre les trois formes, donc ça veut dire que c'est éternel. Mais seulement, quand on a dit Dieu est égal à l'éternel, ça crée un amalgame dans la tête que ce qui est éternel est un Dieu, ce qui est faux. D'accord? C'est pas parce que quelque chose est éternel que c'est un Dieu. Bon, mais c'est un autre thème, c'est déjà assez compliqué pour aujourd'hui.
Mais dis, dans un de tes précédents cours, tu avais dit que la Torah, elle est faite pour être comprise ici.
Oui.
Et qu'on l'applique ici.
Oui.
Donc, quel but, en fait, de comprendre plus tard dans le monde futur?
Bonne question. Il y a deux choses. Il y a comprendre ce que je dois faire et comprendre pourquoi je dois le faire. Comprendre ce que je dois faire, ça, la halakha, elle a été donnée aux hommes. Donc, il faut que je comprenne avec mon cerveau ce que je dois faire. Maintenant, pourquoi je dois le faire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est pas dit que je vais comprendre. Et quand j'arrive en haut, je peux plus le faire, mais je peux comprendre pourquoi j'ai fait.
Oui, mais à quoi ça me sert?
C'est trop tard ici, déjà.
Il aurait fallu que je le comprenne ici bas. De telle sorte qu'une fois que je suis là-haut, j'ai pas toutes ces
affaires là.
Voilà.
Parce que sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Si directement on me montre avec mes yeux que là je construis, là je détruis, évidemment, je vais faire que construire. Il n'y a plus de mérite. Pour qu'il y ait un mérite, il faut que je ne vois pas directement la corrélation entre mes actes et les résultats. Il y a une corrélation directe, mais je la vois pas. Et quand ma chère arrive, Dieu m'ouvre les yeux. Il me dit, voilà ce que tu as fait.
Bon, je pouvais... On a vu quand même que même avec des miracles, les gens, les Juifs, ils ont fauté.
C'est vrai? Hein? C'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle? Oui. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quand Dieu, on dit que Dieu, il nous a ouvert les yeux.
Ouais.
D'accord?
Mais ils ont quand même fauté après.
Bien sûr. Pourquoi? Parce que le miracle est temporaire. Mais quand après Dieu, il t'ouvre et que tu regardes, bah, tu vois. Mais, écoutez bien ce qu'il explique ici. C'est une notion qui est pas facile. Ce qu'il veut expliquer ici, c'est que comment on peut expliquer cette Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 4, qui dit qu'un instant dans ce monde-ci vaut plus que tout le monde futur. Pourquoi?
Un instant parce que, de quoi?
Un instant de teshuvah et de bonnes actions. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus agir. On peut que comprendre. Or, la compréhension, par définition, est limitée. Donc, forcément, c'est limité ce qu'on fait en haut. Même si tu comprends, bah, c'est limité. En bas, on comprend pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Dieu te dit, quand tu fais une mitzvah, tu m'attrapes. Quoi qu'il arrive. Que tu l'as compris ou que tu l'as pas compris.
Donc,
ce qu'on fait en bas, c'est plus puissant que le plus grand des tzadikim au Gan Eden. Ça veut dire que quand je mets mes téfilines, quand ce soir je vais faire le Kriyat Shema parce que c'est misé de la Torah, j'ai plus de mérite à ce moment-là et c'est beaucoup, il y a une puissance beaucoup plus grande que Rabbi Shimon Bar Yochai en train d'étudier en haut chez Akadosh Baruch Hu.
Étudier.
Profitez. Il kiffe. Enfin, et en plein kiff dans Akadosh Baruch
Hu. Tu veux dire que l'action, c'est pour ça qu'on cache les études au cimetière. Hein? Donc l'action, on a dit que finalement l'action est plus importante. D'accord? Donc plus tu fais d'action, plus la puissance que tu dégages en bas est supérieure à celle qui est en bas.
À 100%. Mais même une petite action.
Même si tu la comprends pas.
Mais là, je touche à la question de Michael. Je crois que c'est Michael. Je sais plus, j'ai entendu la question, je sais plus qui l'a posée. Une question qui est très importante. Il dit, mais oui, mais finalement, hein, finalement, c'est les actes matériels qu'on fait en bas. Et on ressent rien. Je sais pas qui a posé cette question là. C'est toi qui a posé la question? D'accord. Donc, ça, c'est une question qu'on va voir dans la suite du chapitre. Très bonne question qu'on va voir dans la suite du chapitre. Mais là, pour l'instant, ce qu'il veut expliquer, c'est cette Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit qu'un instant de ce monde-ci vaut plus que toute la vie du Lama Ba. Donc, dans les mots.
Attends, juste, Mehdi, j'ai une question. Donc, quand tu dis que les tzadikim profitent du rayonnement de Dieu, c'est dans leur Lama Ba, eux.
Oui.
Ça, c'est pas dans leur Lama Ba du monde.
C'est quoi le Lama Ba, hein?
On est des hommes ici, on profitera pas du rayonnement.
Exactement. D'accord. C'est quoi le Lama Ba? Le plaisir du Lama Ba, c'est quand Akadosh Baruch Hu te montre ce que tu as fait. C'est comme, imagine-toi une personne qui est déjà âgée, qui a 80 ans, d'accord? Et que maintenant, il peut plus avoir d'enfants, il peut plus rééduquer ses enfants. Alors s'il a bien éduqué ses enfants, et que ça se passe bien, il a des petits-enfants, etc., il est content, il a des petits-enfants, il kiffe, il est en plein kiff. Hein, on dit qu'être grand-père, c'est tous les bienfaits des enfants sans les défauts, d'accord? Les avantages sans les inconvénients. Mais si le bonhomme, il a raté sa vie, d'accord? Il a mal éduqué ses enfants, pour faire une catastrophe. Maintenant, quand il arrive, c'est trop tard. Il a beau pleurer, ça change rien. Il dit, écoute, bah, c'est fini, c'est trop tard, t'as 80 ans maintenant. Bah, c'est un peu la même chose. Quand on arrive à un an après 120 ans, Dieu dit, tu peux maintenant analyser ce que tu as fait et profiter de ce que tu as fait et comprendre ce que tu as fait, mais tu peux plus le faire. C'est trop tard, c'est fini. Donc, dans les mots. Ah, bah, il y a d'autres questions?
Allez. Ce que j'ai fait, je le sais. J'ai pas besoin qu'ils me disent, t'as fait ça. Oui, on le sait.
Oui, mais la différence, c'est que ce que je fais, je comprends pas ce que je fais.
Non, mais peu importe, puisque là-haut, de toute façon, on me dit, quand j'arrive là-haut, on me met le tableau, voilà ce que tu as fait de bien, voilà ce que tu as pas
monsieur
fait
Benita,
de bien.
Monsieur Benita, à quel âge vous êtes marié? environ, donnez une fourchette.
Bah, je sais pas, il y a 40 ans.
Hein. D'accord. Quand vous êtes marié, pourquoi vous êtes marié?
Ah, je peux pas le dire, là. Alors, je l'aimais. Oh.
Maintenant que vous réfléchissez avec du recul, ouais. Est-ce que vous voyez la chose différemment?
Ouh là là.
Ah oui, oui, bien sûr que je vois. on va tout savoir là. Hein. Allez, monsieur.
Non,
monsieur,
non, je suis pas en train de dire chasse shalom que
non.
En mal, ça peut être en bien.
Oui.
Il y a des choses qu'avec du recul, on comprend différemment.
C'est normal, on a vieilli, on a mûri.
Voilà. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est pas parce que je l'ai fait que je l'ai compris. Il y a des choses qu'on fait parce qu'il faut faire et parce qu'on les fait, c'est comme ça. Parce qu'il faut les faire. Mais après, avec le temps, quand on a le temps de s'arrêter et de regarder la scène, à un moment, on peut avoir un peu de profit. C'est comme par exemple, vous éduquez vos enfants, vous arrivez à la table de Shabbat. Toute la semaine, on court, arrive à la table de Shabbat, et là, on fait une pause. Et là, les enfants, ils sont autour de la table, on commence à raconter la paracha, commence à faire un Dvar Torah. C'est un kiff. Hein? C'est un film qui peut arriver tous les vendredis soirs. Et ça marche. Faut juste leur donner des bonbons, c'est tout. Alors. Je peux vous dire que ça marche. D'accord? C'est un moment dans lequel on fait une pause et on profite. On peut kiffer du travail.
Encore une fois, j'ai un tableau du bien et un tableau du mal. Le mal, je le connais.
Oui. Mais
j'ai pas besoin de...
C'est sa question tout à l'heure. Je peux savoir que c'est interdit. Mais je peux savoir que c'est interdit, mais ne pas comprendre pourquoi c'est mal.
Ah, oh bah si. si, je vais pas faire la tefila de demain matin.
Oui, pourquoi c'est grave?
Ben oui.
Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas quoi, bon, ou je mange quelque chose qui est pas caché.
Mais pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave?
Voilà, ben c'est, je sais qu'il sera sur le tableau de droite, voilà.
Et alors?
Ben voilà, je le sais, j'ai pas
de gauche, de gauche, hein, d'abord.
Ou gauche, ou droite, peu importe. Bon, ben, j'ai pas besoin d'attendre 120 ans pour qu'on me dise, voilà. Et en 1830.
Je sais que c'est grave, mais je comprends pas pourquoi c'est grave.
Ah, bah, si.
Bon. Mais si, je enfin, on en parlera pas, on en reparlera après. Mais c'est une question très importante. Savoir quelque chose, ça veut pas dire que je le comprends.
Oh, c'est grave d'avoir mangé un bonbon qui avait un petit composant dedans.
Je comprends pas pourquoi c'est grave.
Non, 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 c'est pas que c'est grave. Bien, c'est que je sais que j'ai ça. J'ai pas besoin qu'il me
vous
le dise.
Vous savez, quand vous mettez les téfilines, vous comprenez pourquoi c'est important de prendre une peau de cuir sur laquelle on écrit avec un texte, on le met sur le bras.
Non, pas toute la liste.
Vous comprenez pas?
Non, ce que je dis, c'est simplement les avérotes entre guillemets que j'aurais fait toute ma vie durant, je les connais pratiquement, donc je sais, c'est même pas la peine que d'attendre de monter pour qu'il me dise voilà, t'as fait ça, t'as fait
d'accord.
Ça,
mais je le c'est sais. Pas par hasard, je sais pas si vous étiez là quand on a fait le chapitre 3, c'est pas par hasard que le chapitre 4 vient après le chapitre 3, parce que dans le chapitre 3, non c'est vrai, parce que dans le chapitre, non, Chazé Shalom,
non, non,
non, c'est Marcel,
non, parce que, non, c'est pas par hasard, dans le chapitre 3, on a parlé de l'importance de Da'at. D'un, c'est le moment où on réalise. On a expliqué qu'il y a la compréhension et il y a le moment où je réalise, où je m'attache à la chose. Ça veut dire que je peux comprendre des choses, même savoir des choses, mais je réalise pas. Bon, j'ai compris que c'est important. Ok, d'accord, j'ai compris, mais je réalise pas, ça me parle pas. Mais à un moment, quand tu vois la scène devant toi, et que tu vois le résultat, et tu vois là j'ai construit, là j'ai détruit, là tu réalises. Ça, c'est ce qui va se passer quand ma chère arrive. Quand ma chère arrive, et dans le Gan Eden, quand on arrive après 120 ans, Dieu nous ouvre les yeux et on voit ce qu'on a fait. Chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Qu'on part de ce monde, parce que sinon, ça aurait altéré le grand.
Il aurait mieux valu que
alors, la
qu'il nous les ouvrissiez au lieu de...
Monsieur Benita, votre temps est écoulé. Alors.
On m'a appris dans l'édition toujours qu'il y a Machiar, ça ne va rien changer, ça sera comme maintenant.
Première phase, oui.
La seule différence, c'est que ça sera comme à l'époque de Tumamer.
Exactement, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a Bet-Amigdash, il n'y a pas de guerre, et toutes les nations respectent Israël, c'est déjà pas mal, hein.
On fait la Torah.
Et que, attends, et qu'on s'accroche avec personne,
exactement.
Et qu'il n'y a pas de jalousie.
On peut pas en Dieu donner.
Ça, c'est ma chia. C'est pour ça qu'on l'a
en voilà, c'est pas, le problème, c'est pas Dieu donné, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. Mais c'est oui, ce problème.
Oui. C'est pas Dieu donné, c'est Mbalambala.
Oui.
Mbalambala. C'est lui donner trop d'honneur en l'appelant Dieu donné.
C'est Machloket, ça. A priori, d'après le Rambam, ceux qui étaient vivants au moment où ma chère arrive ne meurent peu.
Ils ont un mérite.
Il meurt plus, il meurt pas.
Ouais. Non, il y en a qui disent, d'après on se balance au Rambam, pour répondre à ta question, il y en a qui disent qu'ils vont passer par une micro-mort. Une mort instantanée comme ça qui va durer une seconde, juste pour dire qu'ils ont changé de phase, et là, à ce moment-là, tu vas te réveiller avec rien de nouveau. Comme ça, il y en a qui disent.
Ils ont fait que des avérotes, alors
faut bien qu'ils soient méchapères par la mort.
Ils seront punis, après on va régler le problème. C'est tout. Vous savez, il y a une notion importante que je voudrais m'arrêter. Vous savez, quand une personne, après 120 ans, il arrive en haut. Il y a deux options. Trois options. Première option, Baruch HaShem, il a fait plus de mitzvot que d'Averot, Gan Eden, c'est classé. Deuxième option, et là, il y a deux options. Deuxième option, malheureusement, il n'a pas fait assez de mitzvot. Donc, là, il y a deux options possibles. Première option, on le juge, on l'envoie au Gehinnom, il va souffrir. Deuxième option, il va redescendre sur terre. Qu'est-ce qui...
Troisième option, d'accord, il avait un rabbi.
Alors, qu'est-ce qui change? Prends une fois, un, il reste en haut, il va purger sa peine pendant un an, c'est tout, un an. Et après, il va au Gan Eden, et l'autre, il doit redescendre. C'est très simple. Parce qu'il faut que dans la vie, chacun de nous soit passé au moins une fois par toutes les mitzvot. Au moins une fois par toutes les mitzvot. D'accord?
Qu'on revienne en Kohen,
donc, s'il y a un Gilgul, c'est parce qu'il y a une mitzvah par laquelle la personne n'est pas encore passée. C'est tout. S'il est déjà passé par toutes les mitzvot, on règle le problème en haut. On lui fait un guéinom de maximum un an. Maximum. Un an, c'est le maximum.
Mais
c'est d'ailleurs pour ça la raison pour laquelle, quand on fait le kaddish, vous savez pourquoi on fait le kaddish? On dit que chaque fois qu'on fait le kaddish, on sauve la neshama en haut d'une heure et quart de guéinom. Et on dit pourquoi on s'arrête le kaddish après 11 mois? Parce que si on fait le kaddish pendant un an, ça voudrait dire qu'on est en train de dire que la personne qui est partie de ce monde est un rachat tellement fort qu'il a purgé la peine maximale. Donc, pour pas manquer de respect, on fait 11 mois, après on s'arrête, une semaine, deux semaines, trois semaines, et on reprend à la fin. Pour pas manquer de respect envers la personne qui est partie. Mais ça veut dire que la peine maximale, c'est un an. Après un an, c'est fini. Prends le kaddish que la première année, parce qu'après c'est fini. Après, quoi qu'il a fait dans ce monde-ci, s'il a pas besoin de redescendre en bas parce qu'il est déjà passé par toutes les mitzvot, il redescend pas, d'accord?
Non, hum. Où on le trouve ça, les un an? C'est écrit dans quoi?
C'est écrit dans Shulchan Aruch. Sur le Zohar, ça arrête sur ça, sur la notion de Gilgul. D'accord ? Donc ça, c'était pour revenir. Donc la même chose par rapport à ta question. Ça change pas. S'il est déjà passé, c'est le Arizal qui dit ça. S'il est déjà passé au moins une fois par toutes les mitzvot, d'accord ? Et qu'il s'est retenu au moins une fois de toutes les avérotes qui peuvent le concerner, parce qu'il y a des avérotes qui ne me concerneront jamais, comme l'avérote du roi, l'avérote du Cohen, etc. Parce que ça ne me concerne pas. D'accord ? Voilà. Donc s'il est passé au moins une fois par toutes les mitzvot et il s'est retenu au moins une fois de faire toutes les avérotes, quand il arrive en haut, on lui dit maintenant on règle le problème en haut. Gehinnom, maximum un an, après on passe au Gan Eden. S'il redescend, c'est qu'il y a une mitzvah qu'il n'a pas encore fait, et que la seule manière de la faire, c'est de redescendre. Parce qu'on ne peut pas faire de mitzvah. C'est tout. Donc la même chose pour... Si
au Gan Eden, oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas redescendre et être au roi.
On ne peut pas. Non, voilà, quand j'étais uniquement les mitzvot que je pouvais faire.
Vas-y. Si au Gan Eden, on profite du Zéva Shekhina, qu'est-ce qu'on fait au Gan
Eden? Eh ben, au Gehinnom, il est fourche.
Alors, il y a le chauffage aussi.
Je sais pas,
il y a...
savoir, ça, je peux vous donner des descriptions si vous voulez, mais bon, pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Ouais, il y a des descriptions comme le mouvement giratoire de la Neshama autour du monde, comme le fait que la Neshama elle est constamment la même sensation qu'une personne qui est constamment brûlée, régénérée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Il y a aussi, on dit qu'il y a la notion d'obscurité, lumière. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le temps de s'habituer que tout de suite tu ressouffres. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Vaut mieux pas savoir.
Mais je comprends pas.
Non. C'est des images.
Au niveau de la Neshama, qui est une partie divine, oui. Comment le mal peut avoir emprise sur cette partie divine qui reste en
fait. C'est pas qu'il a une emprise, c'est qu'il a été sali. C'est comme un corps, comme un vêtement qui a été sali, faut l'amener à la machine à laver. Et la machine à laver, c'est une souffrance, tu le tournes dans tous les sens, tu tapes partout. Bien sûr qu'elle sent. La Neshama, elle reste intègre à l'intérieur, mais elle peut avoir une crasse autour. Et plus la crasse est épaisse, plus il faut nettoyer.
J'ai compris, mais tu sens rien. Ce qui permet de sentir, c'est le corps.
Oui.
Donc tu sens pas.
Ça, c'est une autre question, ça. Ah oui, ça rentre pas dedans. Oui. Le corps ne sent rien. La preuve, c'est que tu prends un corps mort, il sent rien du tout. Oui. C'est pas le corps qui sent, c'est la Neshama qui sent.
Tu prends un corps mort, mais il est mort. Il y a un corps
mais pourquoi il sent rien. Donc c'est pas le corps qui sent. C'est la Neshama au travers du corps, mais ça, c'est un autre thème. Donc dans les mots, allez Rabotin, reviens, sinon on s'est égaré aujourd'hui, on est parti. Tout ça c'est bien, on va développer tout ça dans la suite. Donc,
on aura le temps de développer.
Ne vous inquiétez pas, si je vous dis qu'on développe, c'est qu'on va développer. Ah, va la kadosh, qui kacher, tu fais ça, imite la bêche, imite la à azaï, imite la bêche, et bah, imite la bêche, et bah, kadosh, ou mamash, de roït, avec kouchabrouk, ou la rat. Donc, réponse. Comment l'admoura Zaken explique cette mishnah dans Pirkei Avot, résumé, qui te dit qu'un instant dans ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur? C'est pas seulement parce que quand on va arriver au monde futur, on va se dire, oh, dommage, on aurait dû profiter dans ce monde-ci. Non, c'est plus que ça. C'est que quand tu es dans le Olam Haba, tu ne peux que comprendre. Or, la compréhension forcément est limitée. Et qui te dit que tu as compris le chemin d'Akadosh Baruch Hu? Alors que quand on est ici-bas, on ne te demande pas de comprendre, on te demande de faire. Et quand tu fais, on te dit que tu attrapes Akadosh Baruch Hu. Et là, quand tu l'attrapes mamash. Là, maintenant, il pourrait poser une question très importante. Il s'est fait quoi quand tu dis que tu attrapes mamash? Pourtant, quand une personne fait une mitzvah, il est en train de faire quelque chose de matériel, quelque chose de physique. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me raconter que quand tu es en train d'attraper quelque chose de matériel, tu es en train en vérité d'attraper un cadeau? Comment on peut dire des choses comme ça? Vous comprenez sa question? Mm-hmm. Je repasse?
Oui, comment le matériel peut être spirituel.
Ça veut dire, on a compris le message, c'est qu'en haut, on comprend. Et la compréhension est limitée, donc forcément, c'est même pas un 0.5% de ce que je devrais comprendre. D'accord. Alors qu'ici-bas, concrètement, je fais une mitzvah, je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc j'attrape Akadosh Baruch Hu. Oui, mais concrètement. V'af. Sha Torah nitlabsha bitvarim tartonim gashmi. Bien que la Torah a été habillée ici-bas dans des choses tartonim qui sont bas, gashmi matériel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sauf finalement concrètement, c'est vrai que tu me dis qu'on attrape Akadosh Baruch Hu, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Je touche un objet matériel. Comment on peut dire que je communique avec Akadosh Baruch Hu au travers ça? Et là il donne une image magnifique. Il dit imagine-toi que tu enlaces le roi. Le roi, en personne, il vient, il te dit, tu vas m'enlacer. D'accord? Pour te remercier. Viens, il t'enlace. Tu sais le kavod que c'est quand un roi t'enlace? Maintenant, est-ce que ça change le nombre de vêtements que le roi est en train de porter? Est-ce qu'il a un vêtement, deux vêtements, 10 vêtements ou 1000 vêtements? Ça change rien. Si j'enlace le roi, j'enlace le roi. Peu importe s'il y a un vêtement, 10 vêtements ou 1000 vêtements. Quelle est l'image qu'il veut nous faire passer ici, la Gemara Zaken? L'image qu'il veut nous faire passer, c'est que quand tu prends une mitzvah, on avait expliqué la semaine dernière, qu'une mitzvah, finalement, c'est un concept spirituel qui a été habillé, descendu, jusqu'à quand il est arrivé, jusqu'à qu'il va s'exprimer dans un concept matériel. Donc la question qu'on se dit ici, il se dit, mais finalement, c'est tellement descendu, est-ce que quelque part, on n'a pas perdu l'âme? Comment il te répond? Il te dit non. Il te dit, quand tu fais une mitzvah, c'est comme si tu enlaces le roi. Quand tu enlaces le roi, est-ce que ça change si le roi, il est en tricot ou si le roi, il porte 10 doudounes? Qu'est-ce que ça change? Tu l'enlaces. Vous comprenez l'image qu'il veut dire ici? Et de la même manière, quand le roi m'enlace, est-ce que ça change que si j'avais une doudoune sur moi et si j'étais en tricot, je veux dire, ah, attention, c'est pas la même chose. Non, une doudoune, ça a tout gâché. Pas du tout. Qu'est-ce que ça change? Ce qui compte, c'est pas le vêtement. Ce qui compte, c'est le fait qu'on a été enlacé. Et bien, ce qu'il te dit ici, c'est que quand tu fais une mitzvah, c'est comme si que tu enlaces à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme si que Dieu t'enlace. Est-ce que ça change maintenant? Est-ce que moi je l'ai ressenti? Est-ce que moi je l'ai pas ressenti? Ça change rien. On te dit la réalité. Dieu te dit, tu veux communiquer avec moi? Toi, tu es la femme. Moi, je suis le mari. Tu veux communiquer avec moi? Sache que quand tu fais une mitzvah, d'accord?
C'est un faux.
C'est bon?
Il est allumé.
C'est la poteuse,
quoi.
David, ça m'appelle Raïm, là.
Non, sérieux.
À quatre tribus, vous êtes partis.
Ah, cassé,
c'est électronique.
Ah bon? Ouais.
Dégueule. Allez, David, on fait une ronde de l'Echaïm.
On nous parle de la Shrina, c'est produit Talmud Torah et de Tzibour la Tfila. On ne parle jamais de Shrina Shruya Benem quand on fait une mitzvah. Quand on est dans la Souka, c'est une unité de Benem. Quand on est dans la Souka,
oui. Toutes les mitzvahs de la Shrina.
C'est
sûr. C'est Zohar, il dit clairement. Bien sûr. Il dit que chaque fois qu'une personne fait une mitzvah, il est entouré, il faut que je cherche. Mais chaque fois qu'une personne fait une mitzvah, il est entouré d'une aura de lumière. C'est écrit clairement ça. Dans le Zohar, c'est écrit. Maintenant, dans la Gemara, c'est pas écrit.
La Gemara, on parle du Talmud Torah.
La Gemara, on parle de certaines mitzvot, c'est vrai. Certaines mitzvot, comme Talmud Torah, comme le Shulchan, comme la table. On parle aussi de. On parle pas de toutes les mitzvot. C'est vrai que je... Non, on parle pas. Enfin, de mémoire, non. Il faut chercher. Allez, tout le monde a été servi?
Non. Vas-y.
Je vois pas. Et je vais te soulever.
Allez, servez-vous. C'est bon? Le chaim, le bracha. Alors, on va faire une bracha. Et avec ça, on va aller plus fort que Rabbi Shimon Bar Yochai Ganeden. Baruch atah Adonai Elohim Melech Olam Shehakol Nehi Midvaro.
Amen.
Vous avez dans les mots Ve'av Shatorah? Ve'av Shatorah. Nitlapsha bidvarim tartonim gashmim. Bien que la Torah a été habillée bidvarim tartonim gashmim dans des choses matérielles, arézé, ça correspond à quoi? Ça ressemble à quoi? Kemechabek et ameler derech machal. Ça ressemble à quoi? Donc il te dit comme ça. Ce que tu vas faire dans ce monde-ci, ça vaut plus que tout l'olam haba. Pourquoi? Parce que là, tu as un vecteur de communication que tu es sûr que tu communiques avec Dieu. Tu es sûr d'attraper, 100%, même si j'ai pas compris. Bien que je le ressens pas, c'est que ça change. C'est comme si tu enlaces le roi, que quand celui qui enlace le roi, Shein est fraîche, mais Maalat et Karvuto ou Dvekuto va m'élèrent, qu'il n'y a pas de différence dans le niveau de son attachement avec le roi, Ben Mechabko, que Sheulavou Shechad, s'il a enlacé le roi lorsqu'il avait un vêtement, Ben Sheulavou Shkamalevouchim, ou bien s'il avait plusieurs vêtements. Vous avez remarqué que c'est pas par hasard. Quand il parle pas ici d'un homme qui enlace une femme, parce que là, il peut avoir des différences. D'accord? Je suis sérieux. D'accord? Quand il signifie qu'il y a des différences, il y a un vêtement ou plusieurs vêtements, c'est parce qu'il parle d'un roi. Que finalement, pourquoi je suis honoré quand le roi m'a enlacé? Parce que le roi m'a montré qu'il m'aimait. Le roi m'a montré qu'il m'a donné du kavod. Pourquoi moi je suis content quand j'ai enlacé le roi? Parce que je suis content que le roi m'a laissé m'approcher de lui. Maintenant, ça me change rien s'il avait un vêtement, 1000 vêtements, 10 000 vêtements, ça me change rien.
Il est quand même descendu le roi à ton niveau.
Alors voilà, chaque vêtement qu'il y a, il faut imaginer comme si, qu'en vérité, le corps du roi était tellement brûlant que tu peux pas le toucher. Alors on a rajouté un vêtement, jusqu'à la fin, t'as l'impression qu'il est froid, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est pas de la chaleur. Ce que je veux, c'est qu'on me dise que quand j'ai enlacé le roi, c'est le roi que j'ai enlacé. Et ben ça, quand tu fais une mitzvah, on te dit, écoute. Peut-être que quand tu fais la mitzvah, tu ne ressens pas la chaleur de la mitzvah, parce qu'on a rajouté tellement de vêtements, et tellement on a fait descendre le concept d'un autre niveau, que du coup, tu ne ressens plus la chaleur. C'est possible. Mais une chose, je peux te dire, c'est que tu ne vas peut-être pas ressentir la chaleur, mais tu auras enlacé le roi.
Et pourtant, c'est là où je suis le plus près de lui.
Eh bien, justement, quand j'arrive en haut, c'est là que j'analyse la scène. Je me dis, mais mince, tu t'imagines, j'ai enlacé le roi. Et moi, j'étais comme ça, comme si de rien n'était. Mais mince, mais qu'est-ce que j'ai raté? Mais qu'est-ce que j'aurais aimé recommencer? C'est trop tard. Je ne peux plus recommencer. Mais ça ne change pas.
Donc il faut qu'il y ait du da'at, c'est-à-dire de la prise de conscience. Mm.
Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait toujours les professeurs qui disaient quand vous grandirez, vous allez regretter le moment où vous êtes allé à Yeshiva. Comment nous, quand on était à la Yeshiva, on se disait que 5 minutes de perdu. Maintenant qu'on comprend qu'en vérité, on aurait aimé revenir à la Yeshiva. Ils te disaient pourquoi vous perdez votre temps? C'est des fois on discute un peu. Ils disent vous allez regretter. Bien sûr, on les a pas écoutés parce que c'est comme ça. Mais maintenant, moi-même, quand j'ai mes frères qui sont à la Yeshiva, je leur dis profitez. Mais ils m'écoutent pas. Et eux aussi, quand ils auront des enfants, ils vont en parler. C'est comme ça que le monde est fait. Malheureusement, le monde est fait comme ça, que tant qu'on n'a pas vu la chose et qu'on n'a pas comprise, ben, on écoute à moitié.
À quoi ça sert, le
Olam Haba, c'est un srar, c'est un salaire. Le meilleur salaire que Kadosh Baruch Hu peut donner à quelqu'un.
Le salaire du regret de ne pas avoir.
Pas du tout. Non, pas du tout. Le regret, c'est le maximum, le Gainom, qui va durer un an. Après, c'est réglé. Ou bien Gilgul.
Même un tzadik, tu me dis qu'il regrette de ne pas pouvoir être sur.
Non, c'est pas qu'il regrette. C'est qu'il se dit, j'aurais pu faire plus, mais c'est fini. C'est quoi le plus grand salaire? C'est quand tu permets à une personne de profiter de ce qu'il a fait.
Mais là-bas, c'est un retour.
C'est le plus grand salaire.
Mais alors, le Guéhinnom, vous dites, il reste un an maximum.
Oui.
Et après cette année, qu'est-ce qu'il devient, ce
pourquoi? J'ai deux secondes. Ça, c'est un mamar de Rassilou qui explique. Il dit, pourquoi on a un plaisir particulier avec les enfants? Prendre un plaisir particulier avec nos enfants. Parce que nos enfants, on les a fait. Tu les as construits de A à Z. Et quand tu profites de ce que tu as fait, c'est un plaisir énorme. C'est la même chose. Quand tu arrives en haut après 120 ans, le plus grand plaisir, c'est quoi? C'est que Dieu nous montre ce qu'on a fait. Vous savez, dans Père et la Metzaïn, dans chapitre 37.
Ça, est-ce qu'on était en train de dire ça? Parce que usus recul, c'est.
Ça, c'est pas.
Ça, c'est. Non, c'est.
C'est du latin. Ah, oui, d'accord.
Tu uses de.
D'un bien, oui.
Tu profites. Tu fais fructifier ton temps.
D'accord.
Et l'usufruit, c'est
tu profites des fruits. Tu profites des fruits, d'accord. Donc c'est les enfants.
Non, l'usufruit, c'est l'ensemble de deux.
Non.
Il y a deux ou trois, non.
Tu profites des fruits.
Mais ça ne t'appartient
bon,
pas.
Bon, en tout cas.
L'usufruit.
Le ta'anouk qu'on a, le plus grand ta'anouk qu'on a, le plus grand plaisir qu'on peut avoir, c'est quand on comprend quelque chose. On comprend pourquoi on l'a fait. Et quand tu comprends pourquoi tu l'as fait, et tu as le temps, c'est toi-même qui l'as fait, tu as du plaisir. Donc, pour répondre à la question, après 120 ans, à quel âge Borouille? Quoi? Pas du tout.
De savoir, ça t'enlève.
Il n'y a plus de sroute. Quand t'arrives en haut, c'est fini maintenant, pas plus. On arrête les compteurs. Maintenant, on te montre ce que tu as fait. D'ailleurs, je voulais vous expliquer, dans le chapitre la Metzaïn, la notion que Avraham a commencé à parler tout à l'heure, ce que tu dis que c'est intéressant, c'est expliqué longuement dans le chapitre 37 du Tania. Bezrat Hashem, hein, comment vous avez dit tout à l'heure, comment on dit en arabe,
Hanun Verachum.
Hanun Verachum. Bon, c'est pas en arabe, ça. Alors. Là-bas, dans le chapitre 37, il dit, comment on dit en hébreu l'exil? Gola. Comment on dit en hébreu la libération? Geoula. Quelle est la différence entre les deux? Les deux s'écrivent avec Gimel, Vav, Lamed, He. Mais quelle est la différence? Dans Geoula, il y a un Aleph. C'est quoi le Aleph? Aleph, c'est la même lettre que Or, la lumière. Ça veut dire quoi? Là-bas, dans le chapitre 37, Admor HaZaken dit, le plus grand salaire qu'on va avoir quand ma chère va venir, c'est que Dieu va éclairer l'exil. Il va nous montrer ce qu'on a fait. Et quand tu comprends ce que tu as fait, tu dis, c'est bon, ça y est, j'ai compris, j'ai mon jeu kiff, ça y est, laisse-moi, ça ne me touche plus. Ça veut dire que j'ai même pas besoin d'avoir un autre salaire. Les gens, ils pensent que c'est quoi le salaire? Le salaire, c'est quelque chose qui est issu de mon travail. Ça veut dire quoi? Par exemple, je dis à mon fils, si tu te comportes bien, on va aller dimanche à Astérix. Mais il n'y a pas de rapport entre les devoirs et Astérix. Ça n'a rien à voir. Astérix n'est pas issu des devoirs. Mais nous, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Nous, en vérité, on est en train de créer l'avènement messianique. On est en train de le créer maintenant. Seulement, on le voit pas. Et quand ma chère arrive, Dieu, il allume la lumière. Il dit voilà, Aleph, on allume la lumière. Et là, automatiquement, on va comprendre que Mashiach, c'est le résultat de notre travail. D'accord? Mais ça, c'est un autre thème, très très long. Chapitre 37, un chapitre qui fait 10 pages, je crois. Très très long, très important comme chapitre. Pour expliquer cette notion-là, que le plus grand salaire qu'il va avoir quand Mashiach va venir, c'est que Dieu va nous montrer ce qu'on fait. Donc, on revient maintenant au roi.
On demande alors, soit comme un évêque, honnête et qu'avait le phrase.
Soit comme quoi?
Comme un évêque qui ne veut pas recevoir un salaire.
Ici, dans ce monde-ci.
Non.
Dans ce monde-ci, soit comme un esclave, tu n'auras pas de prince. Dans ce donc il y a pas de. Donc c'est pour ça qu'on te dit soit comme un esclave qui ne sera.
Soit, t'as pas le choix. Dans ce monde-ci, t'as pas le choix.
Il peut avoir un salaire. Bien sûr qu'il y a un salaire, bien sûr. Mais peu importe. Quand on dit que Evet Shalom Nadel Kabel Prince, c'est quand on fait la mitzvah ici-bas. Mais chaque mitzvah aura une récompense. D'accord. Mais ça, on reviendra dessus. Je vais terminer le thème déjà.
Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Il me dit voilà. T'as fait ça, c'est pas bien. Que ça m'apporte? Je suis mort.
Il aura même pas besoin de vous le dire. C'est mort.
Ben oui, le mec, il est mort.
Pas la neshama.
Se bénita, la vie, c'est pas le corps. La vie, c'est la neshama.
Ouais, mais enfin bon. La vie Neshama, la Neshama, elle ne vit que dans mon corps.
Mais attendez, que je suis mort, normalement, quand on investit, plus on avance, et plus on doit augmenter. Le corps, plus il avance, et plus il périt. Donc il y a un problème. Vous comprenez pas, vous voyez pas qu'il y a un problème? Dans le business, quand on investit, plus on met d'argent, et plus il doit grandir. Le corps, plus on avance, et plus il détériore. Donc c'est pas la finalité. Vous comprenez?
Ouais, je comprends.
D'accord?
Oui.
La finalité, c'est autre chose. Il faut chercher autre chose. Le corps, c'est un moyen, c'est pas un but. C'est la Neshama qui est derrière le corps. Qui mais s'exprime au travers du corps.
Cette Neshama, elle ne vit que dans ce... C'est grâce à ce corps qu'elle vit.
Non,
c'est grâce à ce corps que la Neshama, elle vit.
C'est le contraire.
Si on la détache du corps, elle meurt aussi.
Pas du tout, la Neshama ne meurt pas. C'est le contraire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt? D'accord? Il voyait, il avait des yeux, il voyait, tout d'un coup, il meurt, les yeux ne voient plus. Pourquoi? L'œil, il est toujours là, l'œil. Et si tu l'ouvres, pourquoi il ne voit plus? Parce qu'il n'y a plus la Neshama qui est derrière, il n'y a plus l'énergie qui est derrière. L'énergie ne meurt pas.
Le souffle de vie.
L'énergie déménage. Quand une personne part de ce monde-ci, on dit qu'il déménage. Avant, il était là, maintenant, il est en haut. Peut-être qu'il va redescendre, peut-être pas. C'est tout. Ok? On continue. Donc, je reviens dans l'idée ici, qui te dit que quand moi je fais une mitzvah, c'est vrai que je ressens pas. C'est vrai que tellement on a mis de vêtements, et tellement on a mis de protection, que du coup, tu ressens plus rien. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change si tu ressens ou tu ressens pas? Si tu veux savoir, est-ce que tu t'es attaché à Kadosh Baruch Hu? Si tu veux le plaisir, il n'y a pas de plaisir ici. Comme Abraham a dit, il n'y a pas de plaisir ici. Ça, effectivement. Tu mets des protections, il n'y a plus de plaisir. Mais si tu veux savoir, est-ce que je l'ai attaché? Est-ce que j'ai enlacé à Kadosh Baruch Hu? Oui, tu as enlacé à Kadosh Baruch Hu. Avec 1000 vêtements, mais oui, tu l'as enlacé. Ben, chez Oulavouch, comme Alevouchim, mais Achar, chez Gouf, Améler, Betocham, puisque le corps du roi se trouve à l'intérieur. Vechen, il en est de même. Ima Meler, Mechabko, Bizroo. Si c'est le roi qui va m'enlacer avec ses bras, est-ce que ça change si j'avais 10 vêtements ou si le roi avait 10 vêtements?
Non,
ça change rien. Gam chez Imelou Bechet Tormal Bouchav, même si la Neshama est habillée avec des vêtements et des protections, ça change rien. Ce qui compte, c'est que je sais que ça s'est passé. Comme moi, chez Katou, comme c'est écrit, Vimino Techabekeni. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Là, il ramène un pasuk dans Shir HaShirim, qu'est-ce qu'on dit? Là-bas, Shlomo HaMelech, il dit que la relation qui est entre Kadosh Baruch Hu et Israël, c'est comparé à un homme et une femme. Et il dit que comment ça se passe quand deux personnes s'enlacent? Smolo Tachat Leroshi, on avait dit qu'on allait en parler, c'est plus tard, c'est maintenant. On a dit que lorsqu'on enlace quelqu'un, la main gauche se trouve sous la tête, et la main droite attrape par la taille. D'accord? Donc Smolo, la gauche, Tachat Leroshi,
ça dépend.
Bon.
Tachat Leroshi.
Ah oui. Bon, ça dépend. Ah là. Je parle d'un homme et d'une femme là.
Un homme et une femme.
D'accord? Parce que la main droite, celle qui prend la taille, celle qui l'approche vers toi. D'accord? Donc, smolo tachat le roshi, la main gauche est sous ma tête. Vimino, et sa main droite, techabekeni, elle m'enlace. Ça veut dire comment enlacer? Comment on peut comprendre la notion d'enlacer avec Akadosh Baruch Hu? Comment on peut comprendre cette notion là? Donc, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous comme un homme avec une femme. Mais quelle est la notion d'enlacer? Il faut savoir que chaque détail qu'il y a dans Shir HaShirim est précis. Chaque détail. Vous savez, dans Shir HaShirim, il y a des descriptions très explicites. D'accord? On parle, par exemple, des seins de la femme, on parle du lait, on parle de tas de choses que je ne peux pas rentrer dans les détails. Et chaque détail qui est écrit dans Shir HaShirim, s'il est explicite, c'est parce que ça correspond à quelque chose dans la relation qui est entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Chaque chose. Par exemple, l'homme qui a des relations avec la femme, c'est la même chose à Kadosh Baruch Hu, il y a un niveau dans lequel c'est comme si on avait des relations avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Chaque chose a un sens. Nous, aujourd'hui, on s'arrête sur le sens de Techabekeni, enlacé. Là-bas, dans Shir HaShirim, il dit, sa main gauche est sous ma tête, et sa main droite me prend par la taille. Donc là, aujourd'hui, on va s'arrêter sur le détail, sa main droite qui m'attrape par la taille. C'est quoi la main droite qui m'attrape par la taille? C'est la mitzvot. Lorsque tu fais une mitzvah, toi, tu enlaces à Kadosh Baruch Hu, et lui, il t'enlace. Maintenant, même s'il y a tellement de vêtements qui ont fait que la mitzvah a tellement été, maintenant il y a tellement de vêtements qu'on a mis autour, que du coup, peut-être que moi je le ressens pas, ça change pas. Que tu le ressentes ou que tu le ressentes pas, le Shir HaShirim te dit, c'est un fait. Vimino, la main droite d'Akadosh Baruch Hu, grâce au mitzvot, Techabekeni, Akadosh Baruch Hu, il m'enlace. Quoi qu'il arrive, que je le sente ou que je le ressente pas. Ça, c'est énorme. Au Gan Eden, quand on est en train de comprendre, ce que j'ai compris aujourd'hui, demain je peux comprendre que j'ai rien compris. C'est combien de fois ça nous arrive dans la vie? On comprend quelque chose, demain tu le relis, tu dis mais hier j'ai rien compris. Pourquoi? Parce qu'on a une compréhension qui est limitée. Est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Comme je touche à les limiter, demain je vais dire mais j'ai rien compris. C'est-à-dire que même Rabbi Shimon Bar Yochai et Ogan Eden qui est en train d'étudier, demain ce qu'il va comprendre, il va dire que en vérité j'ai rien compris hier. Et c'est pour ça qu'on dit que les tzadikim Ogan Eden ils sont constamment en train de construire des mondes et de les détruire. Pourquoi? Ça veut dire reconstruire des mondes et de les détruire. Ça veut dire que tu comprends quelque chose, et demain tu comprends qu'en vérité ce que tu as compris hier, c'était rien par rapport à ce que tu aurais dû comprendre. Et comme ça, pourquoi? Parce qu'en vérité, la compréhension forcément est limitée. Alors que nous, on est sûr que quand on fait une mitzvah, on a touché le jackpot. Parce que Kadosh Baruch Hu m'a enlacé et moi je l'ai enlacé. Maintenant, est-ce que je l'ai compris, je l'ai pas compris? Ça peut-être que je l'ai pas compris. C'est pas un problème, je l'ai pas compris. Mais je suis sûr que j'ai touché le jackpot. Et que demain, je pourrais pas dire hier je me suis planté. Ça n'arrivera jamais. Et que dans le Gan Eden, même si dans 1000 ans j'arriverai au Gan Eden, dans 2000 ans, chaque fois que je reanalyserai un acte que j'ai fait en bas, je dirai, ah oui, là, Kadosh Baruch Hu m'a enlacé. Je le comprendrai à chaque fois différemment, mais jamais je dirai, ouais, c'était bidon. Jamais, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand je fais une mitzvah, j'ai touché le jackpot. Quand je fais une mitzvah, j'ai enlacé à Kadosh Baruch Hu et à Kadosh Baruch Hu m'a enlacé. Voilà comment on peut comprendre avec ça ce qui est écrit dans Pirkei Avot, qu'un instant de ce monde-ci vaut plus. Pas seulement est plus important, vaut plus. Ça vaut plus que toute la vie du Olam Haba, parce que la vie du Olam Haba est limitée, alors qu'une mitzvah a un impact qui est illimité. Et qu'en vérité, le Zohar, il dit une phrase extraordinaire, qui dit que quand, après 120 ans, quand on va arriver après 120 ans en haut, Akadosh Baruch Hu va nous remontrer constamment nos mitzvot. Et chaque fois que tu revois le film, chaque fois tu découvres de nouveaux détails. Tu dis, waouh, j'ai pas vu ce détail-là, waouh, j'ai pas vu ça. Imagine un film que tu revois. Après, combien de fois tu vas le voir? Ça y est, tu le connais par cœur, tu connais les mots, tu connais les acteurs, tu connais tout. Mais, comme une mitzvah est illimitée, comme on a touché au divin, chaque fois que tu reverras la mitzvah, tu dis, mais c'est extraordinaire ce que j'ai fait ici, mais je suis passé complètement à côté. Tu dis, mais ce que j'ai compris hier au Gan Eden, c'est rien par rapport à ce que j'aurais dû comprendre. Mais encore une fois, en bas, ici-bas, quand on sait que quand on a attaché à Kadosh, quand on a fait une mitzvah, on a touché le jackpot, on a attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, moi, je sais que comme c'est écrit, vimino techa bekeni, que la main droite de Kadosh Baruch Hu m'enlace, c'est écrit dans Shirachim. J'arrive. Shehi a Torah, shenitna miyamin. Que la Torah, elle a été donnée miyamin. La Torah a été donnée par la main droite. D'accord? Comme ça, c'est écrit. La Gemara dans Brachot, elle dit que la Torah a été donnée par la main droite. Pourquoi? Parce que c'est écrit, mimino esh dat lamo. Dans Azinu, c'est écrit que de la main droite, il y a le feu d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est en travers de la Torah. Shehi, prinat chesed umaim. Que c'est quoi la Torah? La Torah est comparée à la droite. La droite est comparée au chesed. Le chesed est comparé à l'eau. Et ça, il t'explique en vérité qu'on voit qu'à chaque fois quand on parle dans la, quand on voit des différentes gmarotes qui parlent dans la Torah, qui parlent de la Torah, qui définissent la Torah, des fois la Torah est définie comme quelque chose qui t'enlace. Des fois la Torah est définie comme quelque chose qui est de la bonté. Des fois la Torah est définie comme de l'eau. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'eau. Tout ça, c'est le même message. C'est la droite. C'est la main droite de la Kadosh Baruch Hu qui est en train de te prendre et qui est en train de t'enlacer. Ah, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça change? Ça change pas. T'as fait sa volonté. Vous vous rappelez, ça fait deux cours en arrière. On avait donné un exemple, on avait dit, c'est comme une fois, une femme qui a demandé à son mari, elle est enceinte par exemple, elle a une envie, elle lui dit, va m'acheter ce gâteau dans telle boutique. Maintenant le mari, des fois il comprend, des fois il comprend pas. Qu'est-ce que ça change s'il comprend? Est-ce que parce qu'il a pas compris, alors dans ce cas-là, il peut pas faire la volonté de sa femme? Même s'il a pas compris, elle a compris. Donc quand tu vas lui amener son gâteau, elle pourra te dire, ça c'est le gâteau que je voulais. Et si tu l'as amené, si toi t'as pas compris, t'es dit bon, on peut plus de toutes les façons, c'est du n'importe quoi, je veux l'acheter autre chose. Quand tu viendras, tu dis non, c'est pas ça ce que je voulais. Pourquoi? Parce que elle a compris. Mais c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, l'Avdi, Akadosh Baruch Hu, lui, il a compris. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a compris. Et comme lui, il a compris, Akadosh Baruch Hu, tu lui saches que quand tu fais une mitzvah, tu m'attrapes. Quoi qu'il arrive, quoi que tu penses. Voilà pourquoi c'est tellement important de faire une mitzvah dans ce monde-ci. Et voilà pourquoi, hein, ça c'est le rabbi insistait beaucoup sur ça, et le chapitre 37 va être complètement autour de ça. Hein. C'est mamash un thème principal de la chassidout, que lorsqu'on voit que le rabbi a lancé des campagnes de mitzvot, tu prends quelqu'un qui est loin de la Torah. On aura envie de dire, hein, le bonhomme il est loin de la Torah. Avant de lui proposer de lui mettre les tefillines, de lui mettre une mezouza, et bon, tu vas rendre fou jusqu'à qu'il mette les tefillines. Est-ce que c'est pas mieux d'abord de l'inviter à s'asseoir, de discuter, de lui parler de théologie, de la grandeur de Dieu, etc. Qu'il comprenne un peu. Et quand il aura compris, commence à les mitzvot. Comme ça, on travaille dans le business. D'accord? Tu veux pas directement goûter. D'abord, tu lui expliques le produit. Après, tu passes à l'action. Quelle est la réponse? Le rabbi dit, la réponse est très simple. C'est que quand tu vas lui expliquer une explication, comme on a expliqué, forcément, elle est limitée. Donc, toi, tu vas lui expliquer, peut-être ça va lui parler, peut-être ça va pas lui parler. Mais une chose, on est sûr, que quand il a fait une mitzvah, quand tu vas lui faire mettre les tefillin, sa neshama, elle va sentir comme si que Dieu l'a enlacé. Et combien d'histoires on a, des milliers d'histoires on a, de gens qui ont mis des tefillines. Parce qu'une personne, un chabad ou je sais pas qui, les a rendus fous pour mettre les tefillines. Ils ont commencé par une petite mitzvah. Et après, bon, ils vont prendre d'autres voies, d'accord? C'est pas spécialement qu'ils vont suivre les chabad, ils vont aller dans le monde entier. Qu'est-ce qui les a fait démarrer très souvent? Combien de fois on voit? C'est les tefillines qu'ils ont mis. Il y a eu un sondage qui a été fait récemment par la yeshiva Esh HaTorah. par la Yeshiva Esh HaTorah, d'accord, qui est à Jérusalem. Une Yeshiva qui est loin d'être Rabat, pas du tout. Et là-bas, ils ont demandé au Baal HaTshuva, ils leur ont demandé la question, ils leur ont dit, qu'est-ce qui a été la première chose qui vous a attiré à la Torah? La réponse la plus fréquente, c'était, on a mis les téphilines, on a fait une mitzvah. Et après, on sait pas pourquoi, on a senti que ça, il y a quelque chose qui a démarré. Pourquoi? Parce que quand tu fais une mitzvah, Dieu t'enlace. Et la Neshama, elle sent que ça vibre à l'intérieur. Ah, peut-être des fois on sent plus, des fois on sent moins, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand tu fais une mitzvah, t'es sûr que t'as fait quelque chose que tu pourras jamais regretter. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, bon, peut-être c'est un argument qui est bon, peut-être qu'aujourd'hui il est bon, demain il n'est pas bon. Mais quand tu fais une mitzvah, c'est sûr que ça marche. C'est pour ça que le rabbi disait toujours, quand tu as quelqu'un de ta famille, qui est, Dieu préserve, qui est loin de la Torah, ou quand t'as un ami qui est loin de la Torah, encourage-le à faire une mitzvah. Une mitzvah, ça peut être par exemple l'inviter à venir au restaurant manger kasher, parce que manger kasher, c'est une mitzvah. Et pour lui, il est venu à un restaurant. Il est venu pour manger à un restaurant. On lui a offert un restaurant. Bien sûr qu'il va pas venir. Il va venir. Mais il a fait une mitzvah. Et cette mitzvah, ça va travailler sa neshama. Ça va travailler, ça va faire vibrer sa neshama. Et automatiquement, son corps, peut-être que c'est ça ce qui va le faire déclencher. Peut-être. Alors encore une fois, pourquoi je dis peut-être? Parce qu'il y a tellement de vêtements que peut-être des fois on ressent pas. Mais peut-être c'est ça ce qui va le faire déclencher. Va savoir s'il va être sensible à ça ou pas. C'est pour ça que c'est important quand on a des gens qui sont loin de la Torah, de les encourager à faire un maximum de mitzvot. Et plus on fait des mitzvot, et chaque fois la neshama elle vibre, et à force de vibrer, vous savez, c'est comme un marteau. Tu prends, tu tapes, et ben à un moment ça va bouger.
Tu dis un truc sur les vêtements du roi, mais en fait c'est pas le roi qui a des vêtements, c'est nous qu'on les culpote.
Alors, c'est ce qu'il dit ici. C'est que il a parlé que le roi peut avoir des vêtements, et nous on peut avoir des vêtements. Parce que il peut avoir un problème dans les deux côtés. Le roi a des vêtements parce que le roi il a fait tellement descendre les mitzvot que du coup les mitzvot maintenant, la mitzvah telle qu'elle est matériellement, elle a été habillée, donc Dieu a habillé la mitzvah. Mais moi aussi avec toutes les avérot que j'ai fait, j'ai habillé ma neshama. Je l'ai habillé de crasse. Alors quand tu as la crasse qui touche un truc sans, avec 10 000 vêtements, du coup tu dis mais attends, mais c'est froid contre froid, c'est zéro, il va rien se passer. On te dit non, peut-être qu'il va rien se passer, qu'on va rien ressentir. Mais concrètement, ce qui est clair, c'est qu'il a été enlacé et qu'il y a eu une communication avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, un homme qui fait une mitzvah, le Zohar va très loin. Le Zohar dit qu'un homme qui fait une mitzvah, c'est comme si qu'il avait des relations, c'est comme un homme qui avait des relations avec une femme. Peu importe qu'il a senti, qu'il a pas senti, il a eu la relation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Quand un homme fait une mitzvah avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme un homme qui a des relations avec une femme, c'est comme si on avait la femme qui avait une relation avec Akadosh Baruch Hu, et c'est comme si Akadosh Baruch Hu a communiqué avec toi. Maintenant, je l'ai compris, je l'ai pas compris, ça change rien. Peu importe. Ce qui est clair, c'est que ça s'est passé, et que, quand ma chère arrivera, là, on comprendra ce qui s'est passé. Chanoun Baruch Hu. Il faut pas, c'est pas un minimum, il faut que de la Emouna. Parce que là, on touche à quelque chose que, bon, on peut que croire.
Enfin, tu dis quand on met les fines à quelqu'un qui est très loin, ça lui fait quelque chose en lui. Il faut qu'il y ait quand même cette personne.
Non.
D'ailleurs, statistiquement, si je ne me trompe pas, la campagne de mitzvot a beaucoup plus influencé les sfaradim que les
kohanim. Non, c'est bon, il y a les deux. Je vis les deux.
Statistiquement, il y a beaucoup plus de sfaradim que
les. Parce que sfaradim ont le cœur plus chaud, ça avance, c'est autre chose. Bon, d'accord. La réponse est très simple. Ça n'a rien à voir avec la Emouna. Un juif, d'accord. Il faut savoir qu'on va expliquer dans le chapitre 18, on aura tout un chapitre sur ça, qu'un juif de série, il a la Emouna. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas la Emouna. Seulement, des fois, avec le temps, cette Emouna peut être encrassée. Donc il faut la décrasser. Et comme j'expliquais, chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est comme si tu envoies un coup de marteau. Alors des fois, avec un coup, ça part. Des fois, c'est tellement encrassé qu'il faut envoyer plusieurs coups. Mais forcément, à force d'envoyer des coups, ça va passer. Tu sais, quand tu as des gens qui ont un patron, qui ont des gens comme ça, qui sont très loin de la Torah, et à chaque fois, tu essaies de lui faire faire une mitzvah, et à chaque fois, il dit non. Tu essaies à chaque fois de lui faire faire une mitzvah. Et tu vas t'arranger pour qu'il mange cachère, etc., pour qu'il fasse une mitzvah par, une mitzvah par, et tu vois que ça bouge pas. C'est pas grave. C'est pas parce que moi, j'ai pas vu que ça bouge pas, que ça a pas bougé. Non, mais c'est vrai. C'est pas parce que moi, j'ai pas vu que ça a bougé, que ça a pas bougé. C'est comme le marteau. Tu tapes, et à un moment, ça va décoller. Est-ce que ça veut dire que c'est que le dernier coup qui était bon? Non! Tous les coups étaient bons. Seulement, les coups d'avant, on n'a pas vu. Mais le dernier, c'est celui qui a montré que les coups d'avant ont servi. C'est la même chose. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu m'enlace. Je le sens pas. Un jour, je le sentirai. Un peu dans ce monde-ci, le maximum, Bezrat Hashem, dans le monde futur, quand ma chère arrivera. Donc avec ça, on a résumé. On va résumer juste rapidement le chapitre 4. Chapitre 4, on a expliqué l'importance de l'action. Pensée, parole, action. Les trois moyens d'expression de la Neshama. Et on a expliqué que finalement, ça c'est le plus important. Pourquoi? Parce que de tout ce que tu vas comprendre, de tout ce que tu vas développer, t'es pas sûr d'être dans le bon. Par contre, ce que tu as fait, et ce que tu as fait dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit, là t'es sûr que t'es dans le bon, et t'es sûr que quoi qu'il arrive t'as enlacé Akadosh Baruch Hu, même si toi tu n'as pas compris comment tu l'as enlacé. Bezrat Hashem, dans chapitre 5, extraordinaire ce chapitre. Chapitre 5, il va expliquer comment la Torah peut être la nourriture de l'âme. Extraordinaire ce chapitre-là. Le chapitre 5, vous allez voir, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, qu'après le chapitre 5, vous ne verrez plus l'étude de la Torah de la même manière. Mamash, sérieusement. C'est un chapitre énorme qui va t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand j'étudie la Torah. Comment quand j'étudie la Torah, c'est comme si que j'étais en train de donner à nourriture, je suis en train de donner à manger à ma neshama. Vous savez, on dit que David Hamelech, il dit, quand il étudiait la Torah, il a dit, ta Torah est dans mes entrailles. Comment la Torah peut nourrir quelqu'un, spirituellement. Un chapitre énorme. Non, pas les mitzvot, la Torah. Autant dans ce chapitre, le chapitre 4, on a plus insisté sur les mitzvot, l'action. Autant dans chapitre 5, on va expliquer comment dans la Torah, dans le limoud à Torah, il y a quelque chose qui se passe, qui nourrit la neshama, quelque chose d'énorme qu'on peut ressentir ici-bas. Autant dans les mitzvot, on a dit, j'enlace le roi, mais il y a tellement de vêtements que je ne ressens plus rien. Mais je sais que ça a été le cas. Autant dans la Torah, ce qu'on va expliquer la semaine prochaine, ça va être quelque chose qu'on peut ressentir et qui peut se mesurer avec des outils ici-bas. Vraiment comme si, comme quelque chose que tu manges, que tu peux dire c'est bon, c'est pas bon, j'ai ressenti, j'ai pas ressenti.
C'est une des 613 mitzvot.
Oui, mais on va voir que c'est une des 613 mitzvot, mais le concept de l'imoud à Torah, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose de, c'est la neshama qui est en train de manger. Ça, c'est la semaine prochaine.
Et on le ressent.
On peut le ressentir, oui, 100%.
Tu viens, Charles, la semaine prochaine?
Alors, on est bien.
Oui, ah, ouais. Ouais, pour voir.